Dieu te bénisse. Frère Gérard, bonjour. Pamela, bonjour. Karine, bonjour. Merci pour la bénédiction. Myriam, bonjour. Danou, bonjour. Vous pouvez faire comme moi, puis aller prendre votre café si vous voulez. On a peut-être une petite 6 minutes d'avance. Donc, vous pouvez effectivement prendre votre petite dose de caféine matinale en ma présence ce matin. Comme vous voyez, je suis à l'église aujourd'hui. Simplement des petites choses à faire au bureau. Donc, je sais pas ici. Ça ne veut pas m'ouvrir. Bonjour Denise, que Dieu vous bénisse. Ça va par la grâce du bonjour, Nenji. Bon, ici, je n'arrive pas à voir. Bonjour Pamela, que Dieu te bénisse. Les petits ajustements techniques que je dois faire à chaque fois. C'est un peu compliqué pour moi, la technologie moderne. J'espère que ça va bien pour vous tous. Sinon, je vais y aller avec mon cellulaire et ce sera pratiquement plus simple. Bon, sur mon cellulaire, je vois tout le monde. Donc, Hélène, bonjour, Dieu te bénisse. Bernadette est avec nous, donc Dieu vous bénisse, sœur Bernadette. Le frère Guy s'est connecté. Sois béni, Guy. Merci, Nenji, que Dieu te bénisse aussi. Bonjour à Louise et à Michel, que Dieu vous bénisse tous deux. Françoise, qui est connectée via les beaux séjours à Sainte-Adèle. J'espère qu'il fait beau chez vous, ça doit être joli dans votre coin. Aujourd'hui, c'est le grand soleil. J'ai les bourgeons qui commencent à apparaître à ma fenêtre, donc c'est très joli. Je suppose que dans le coin... Oh, chez Karine, ça doit être beau aussi. En Mauricie, c'est un beau coin. C'est bien que vous vous saluiez, en tout cas que vous fassiez les salutations. Les uns les autres, c'est aussi ça, l'occasion de commencer un peu plus tôt. Ça vous permet d'échanger, de saluer vos frères et vos sœurs. C'est une bonne chose. Comme vous l'avez vu sur le titre pour ce matin, le passage qui va être utilisé, c'est dans Marc au chapitre 5, du verset 25 au verset 34. Un autre passage qui m'est cher. Bonjour Thérèse, que Dieu te bénisse. Frère Claude Bernard est avec nous ce matin. Sois béni Claude. Je prends un café à ta santé. Ouais, le café qui fait palpiter, mais qui ne me fait pas palpiter à moi, là, mais qui en fait palpiter certains. Marc, que Dieu te bénisse. Sœur Chanel, bonjour. Hermano Edwin, mi compadre, Dios le bendiga. Salutations à ton épouse aussi, Heidi. Merci Thérèse, bonjour à toi aussi. Que Dieu te bénisse. Donc, il nous reste 2 minutes J'espère que vous êtes bien reposé cette nuit, que la nuit a été paisible pour vous tous et que vous êtes prêts à démarrer cette journée. Gloria, je suis content de te savoir parmi nous. À cette heure-ci, pour toi, il est déjà l'après-midi dans un des pays qui a volé une partie de mon cœur il y a quelques années. Donc, au Burkina Faso, Dieu te bénisse, Gloria. Pascal, que Dieu vous bénisse. Nous restons en prière. Soyez bénis, Pascal. Merci, Chanel, que Dieu te bénisse aussi. Andrés, Dieu te bénisse. Bonjour, Suze, que Dieu te bénisse. Je suppose que mon ami Mérest n'est pas à tes côtés aujourd'hui. Ça doit être une saison très chargée pour lui actuellement. On prie que le Seigneur le soutienne, qu'il te soutienne aussi, parce que tu es sur la ligne de front, toi aussi. Donc, que Dieu te bénisse. Bonjour à la sœur Sophie de Gazon. Si votre époux est à côté, faut le saluer de ma part aussi. Que le Seigneur vous bénisse tous deux. Sois béni, Yann. Daphnis, que Dieu te bénisse. Effectivement, que la paix de Dieu soit avec nous tous. Donc, il nous reste une petite minute de salutation et après ça, on va commencer. Donc, Marlène se joint à nous depuis Narbonne. Elle est à peu près avec le même décalage horaire que Gloria à Ouagadougou. Donc, de l'autre côté de l'océan, que Dieu vous bénisse. Marc, Nathalie, soyez bénis. Content de vous compter parmi nous ce matin. Donc, pour ceux qui ont leur Bible déjà la préparée, dans Marc au chapitre 5, et la lecture pour nous ce matin va être du verset 25 à 34. Amen, qu'on soit tous richement bénis ce matin. Bon, alors nous allons débuter. Et s'il y a des personnes qui se joignent à nous plus tard, je n'aurai probablement pas l'occasion de les saluer. Mais bon, Max, que Dieu te bénisse. Astrid, que Dieu te bénisse. Alors nous allons prier pour débuter. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes, afin encore une fois, Seigneur, de plonger nos regards dans ta parole, une parole qui est riche, une parole qui est une source de bénédiction, une parole qui établit le parcours de notre vie ou les règles de vie qui doivent guider notre existence. Alors ce matin, Seigneur, nous nous présentons devant toi comme des disciples à tes pieds, comme des serviteurs qui ont besoin de recevoir l'enseignement et les directives de leur maître. Dirige-nous, conduis-nous, Seigneur. Que ta main, Seigneur, s'étende et nous touche, chacun dans les besoins qui sont propres aux uns et aux autres, de façon respective, Seigneur, étends ta main et touche-nous. Bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis ce temps de partage, éclaire-nous, Seigneur, par ta parole, et permets-nous, Seigneur, d'avoir cette subsistance aujourd'hui qui nous permettra de faire face aux défis qui seront nôtres en ce matin. Alors nous te rendons la gloire, nous te rendons tout l'honneur, toute la majesté, toute l'adoration, parce que tu es seul qui mérite la gloire et l'honneur d'éternité en éternité. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors à tous ceux qui se sont joints à nous au début de la prière, juste saluer Samek, content de vous savoir parmi nous, Alain, Myriam, la sœur Jocelyne, probablement le frère Jacques à ses côtés, Alain Toutang, Dieu te bénisse, le frère Pedro de l'église de Longueuil, soyez bénis, frère Pedro. Alors je lis pour vous dans Marc au chapitre 5, le verset 25 jusqu'au verset 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement, car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Ce texte-là est repris dans les trois évangiles de base, donc Matthieu, Marc et Luc. L'apôtre Jean ne le mentionne pas dans son évangile, mais si on regardait, et ça serait intéressant que vous puissiez faire l'exercice à la maison, dans votre temps libre, regardez les différences qu'il y a entre chacun de ces trois récits de la même occasion ou de la même circonstance et voir comment il y a des détails qui sont plus précis dans un des textes que dans l'autre. J'ai pris aujourd'hui le texte dans Marc parce qu'il m'apparaît probablement le plus complet et il y a certains détails particuliers dedans que je voulais faire ressortir. Premièrement, expliquons une chose. Cette dame à la perte de sang vit probablement ce que nous vivons ou vivait probablement ce que nous vivons actuellement, décuplé à la puissance je ne sais quoi. En fait, lorsque une femme avait ses menstruations, lorsqu'elle était en période de règles, elle était considérée dans la tradition juive et dans la loi mosaïque, elle était considérée comme impure. Et ce faisant, elle devait, pendant toute cette période, être à l'extérieur du peuple ou ne pas toucher les choses que les autres allaient toucher. Parce que tout ce qu'elle allait toucher allait être considéré comme impur. Elle prenait un tissu, ce tissu était considéré impur et les gens autour d'elle ne pouvaient plus toucher ce tissu jusqu'à ce qu'elle-même soit purifiée. Lorsque, dans le cas d'une dame comme ici, la perte de sang durait sur plusieurs mois ou plusieurs années, toute cette période où elle était affectée dans son corps, durant toute cette période, elle était considérée comme impure. Ce qui veut dire que si elle était maman, elle n'avait plus le droit d'approcher ses enfants et leur faire le câlin qu'elle avait encore la veille, le droit de leur faire. Ça veut dire qu'en tant que maman, elle n'avait plus le droit de préparer la nourriture pour sa famille, parce que cette nourriture allait être considérée comme impure. Et toute personne qui mangeait cette nourriture serait par conséquent, lui ou elle aussi, considérée comme impure et devrait passer à travers un rituel pour se purifier. Très souvent, ce qui se passait, c'est que même dans la période de règles, la femme était appelée à sortir de la maison familiale pour passer ce temps considéré d'impureté à l'extérieur et permettre aux gens de la famille de continuer leur vie normale. Alors, si cette dame qui est affectée depuis 12 ans est mariée, il n'y a plus de vie conjugale, il n'y a plus de vie familiale, il n'y a plus de vie sociale, parce que tout ce qui est autour d'elle, si elle y touche, est contaminé. Donc cette femme vit foncièrement en autarcie, vit foncièrement en confinement depuis 12 ans. Et ce qu'elle va faire à ce moment-ci, de s'approcher de Jésus, va être jusqu'à un certain point illégal. En fait, lorsqu'elle se promenait dans la ville ou lorsqu'elle se déplaçait d'un endroit à l'autre, la Bible nous dit qu'elle va être allée rencontrer un tas de médecins, qu'elle aura dépensé son argent dans tout ça, sans résultat. Quand elle se déplace, elle se déplace comme un lépreux se déplaçait. Le lépreux ne se déplaçait pas tout simplement en criant « Je suis lépreux, je suis lépreux, je suis lépreux ». Non, le lépreux se déplaçait avec une cloche qu'il faisait retentir et qu'il faisait retentir et qui annonçait à tous ceux qui allaient croiser son chemin, pas qu'il était lépreux, mais qu'il était impur. Donc il criait à tous « Impur, impur, impur ». Et cette femme, si elle veut se déplacer depuis 12 ans, c'est la même chose qu'elle doit faire. Elle doit décrier impur, impur, impur. Et lorsqu'elle va s'approcher de Jésus, la Bible nous dit qu'elle va le faire en secret, qu'elle va le faire par derrière. Et assurément, elle n'a pas sonné la cloche, elle n'avait pas la cloche sur elle, parce que si elle l'avait fait, on l'aurait tout simplement exclue de la foule et rechassée ou repoussée à l'extérieur. Mais elle va dire qu'elle va s'approcher de lui. Avec cette assurance, elle dit, si je touche le bord de son vêtement, assurément, je serai guéri. Dans cette histoire, il y a plusieurs personnages. Il y a Jésus qui va opérer le miracle. Il y a cette femme qui a besoin d'un miracle. Il y a les disciples qui ne vont pas comprendre et qui côtoient Jésus et qui ne vont pas comprendre lorsque Jésus va demander, mais qui m'a touché? Et il y a toute cette foule qui se masse autour de Jésus, qui le comprime, qui le pousse à droite et à gauche, et qui sont là et qui ne savent pas ce qui se passe. Mais il y a un personnage ou des personnages importants les personnages clés. Lorsque je relisais ce texte, le verset qui m'a sauté à la figure était le verset 27 et 28, que je relis pour vous. Toujours dans Marc au chapitre 5, je relis donc le verset 27 et 28. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Ayant entendu parler de Jésus. Elle est malade depuis avant même le début du ministère officiel de Jésus. On dit que Jésus va avoir eu un ministère public de 3 ans. Elle, ça fait 12 ans qu'elle est malade. Ça veut donc dire qu'il y a un minimum de 9 ans avant l'éclosion de Jésus, si on prenait cette histoire comme étant une des dernières choses, mais c'est probablement une des premières que Jésus va faire. Donc, il y a comme entre 9 et 12 ans où elle va être là, malade, avant que Jésus ne se pointe. Mais Jésus commence à opérer et il y a quelqu'un, je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui est allé parler à cette femme parce qu'elle dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle qui est en confinement, il y a quelqu'un qui a osé l'approcher, peut-être à une certaine distance pour ne pas être contaminé et déclarer lui-même ou elle-même impur, mais il y a quelqu'un quelque part qui lui a parlé de Jésus. Donc, quelqu'un qui a été assez brave pour passer outre les contraintes et pour s'assurer que cette femme qui était en besoin puisse entendre parler de Jésus, que cette femme qui était en confinement puisse entendre parler de Jésus. La première question pour toi et pour moi aujourd'hui, avec toute cette humanité, on nous dit que la moitié de la population mondiale est en confinement ou a été appelée à être en confinement. On nous dit que 70% des Québécois se plient effectivement aux normes de confinement qui sont imposées par l'État. Sur ces 70% de 4 millions d'habitants, ou sur ce 50% de l'ensemble de l'humanité, je me demande, est-ce qu'il y a des gens qui vont s'approcher, qui vont utiliser cette période de confinement pour aller parler de Jésus? C'est le temps approprié pour nous en tant que croyants de parler effectivement de cette seule et unique réponse qui existe pour l'humanité et qui encore aujourd'hui est Jésus, le Sauveur, le Messie et le Seigneur de l'humanité. Est-ce qu'aujourd'hui on ferait comme cet inconnu du texte qu'on vient de lire et aller parler de Jésus à ces gens en confinement et leur dire, regardez, la solution se trouve là. Mais j'aimerais attirer votre attention. Cette femme va entendre parler de Jésus et elle va se dire, je vais aller par derrière, je vais toucher son vêtement, car si je peux simplement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je vais simplement toucher son vêtement, je serai guéri. Je ne sais pas ce que la personne lui a dit. Je ne sais pas ce que ses amis, peut-être qui étaient de passage pour l'encourager, lui ont dit de Jésus. Mais ils lui ont dit quelque chose qui a fait que cette femme ne pouvait pas rester sur place et que cette femme avait cette assurance ferme pour braver la foule. Parce que si on la découvrait, on pouvait la lapider. Si on la trouvait et qu'elle était impure au milieu de la foule et qu'elle était donc cet agent contaminateur parmi la foule pour reprendre des expressions qui sont très actuelles aujourd'hui, ben cette femme, on pouvait la lapider. Mais les gens lui ont dit quelque chose qui a fait qu'elle avait l'assurance profonde que si elle arrivait effectivement à toucher les bords du vêtement de Jésus, elle serait sauvée. Moi, je prie pour que lorsque tu vas aller parler de Jésus, lorsque moi je vais me mettre à parler de Jésus, on ait cette même résultante ou ce même résultat sur la vie des gens qui nous entendent parler de Jésus puis qui disent « cette histoire-là doit être vraie ». Cette histoire-là, assurément, elle est vraie. Elle est assurément si vraie que si je m'approche de Jésus, effectivement, il va m'entendre et effectivement, il va intervenir. Des gens l'ont convaincu que si elle touchait le vêtement de Jésus, assurément, ce Jésus la guérirait. Je me demande si aujourd'hui, lorsque nous parlons de notre Seigneur, on peut avoir ce même pouvoir et cette même puissance de conviction. Imaginez un peu, ça fait 12 ans. Elle a dépensé tout son argent à cela. Elle est allée voir tous les médecins légitimes et illégitimes, des vrais et des faux. Elle a fait tout ce qu'on lui disait que peut-être ça allait fonctionner. Après 12 ans d'avoir fait des tentatives après tentatives après tentatives qui ont échoué, la plupart du temps, si c'était vous et moi, on se découragerait puis on se dirait, ouais, encore un autre. Tu viens me parler de Jésus, mais on l'a déjà essayé, on l'a déjà fait. Mais là, de la façon qu'on lui a parlé de Jésus, elle a dit, assurément, c'est différent des autres. Assurément, ce que le maître fait est différent des autres. Je ne peux pas le laisser passer près de chez moi et ne pas me précipiter dans la foule et toucher le bord de son vêtement. Et je sais, j'ai la conviction que si j'y vais, il va se passer quelque chose. Je prie que lorsque toi, tu vas te mettre à parler, je prie que lorsque moi, je vais me mettre à parler de mon Jésus, il y ait ce même effet-là. Ce même effet qui vient convaincre. La Bible nous dit que le Saint-Esprit convainc de péché. Je prie que le Saint-Esprit, lorsque toi tu te mets à parler, qu'il accompagne, qu'il oigne tes paroles, qu'il puisse oindre, déposer une onction toute spéciale et toute particulière sur le témoignage que tu vas rendre, afin que la personne qui t'écoute dise « je ne peux pas rester sur place ». Je vais m'approcher de ce Jésus parce que je sais que si je m'approche de lui, ma vie va être changée. Vous imaginez le pouvoir du témoignage de ces gens. Je veux dire, cette dame avait toutes les raisons humaines de ne pas s'approcher. Cette dame avait toutes les raisons humaines de ne plus croire. Cette dame avait toutes les raisons humaines de se laisser mourir à petit feu. Cette dame avait toutes les raisons humaines de vivre le restant de sa vie de façon reclue, de façon confinée, en quarantaine permanente pour le restant de son existence. Mais parce que quelqu'un lui a parlé d'une manière autre que tous les autres avant elle, elle avait cette assurance, elle avait cette conviction qui faisait qu'elle allait affronter n'importe quoi pour s'approcher du Maître, pour s'approcher du Seigneur. Montréal, Narbonne, Ouagadougou, Longueuil, pour toutes les villes qu'on a vues ce matin qui se sont branchées, Repentigny ou autres, Mascouche, on a besoin de personnes qui témoignent de cette même manière. Et je suis content jusqu'à un certain point qu'on ne connaisse ni le nom de ces témoins, ni comment ils ont parlé. Parce qu'on voudrait simplement copier mot à mot. Parce que l'important, ce n'était pas le témoin en tant que tel, c'était le témoignage. L'important, c'était qu'on avait parlé de Jésus. Mais on avait parlé de ce Jésus avec une telle conviction personnelle que l'autre devant nous a dit, il faut que je l'essaye. Je sais que ça va marcher. Alors je prie que lorsque tu vas parler aujourd'hui à quelqu'un, lorsque tu vas parler demain à quelqu'un, lorsque tu vas prendre le téléphone pour appeler quelqu'un, que tu parles de ce Jésus avec cette même conviction qui fait que même elle qui était impure a dit, je vais m'approcher de ce Jésus et je sais que je vais devenir pur. C'est ton défi ce matin, c'est mon défi ce matin, qu'on puisse s'approcher de quelqu'un et leur parler avec cette force, cette puissance, cette onction de l'Esprit Saint en nous qui fait que ces personnes, quand ils entendent, ne peuvent plus mener la même vie, ne peuvent plus continuer. La conviction de la réalité, la conviction de l'existence même de Dieu vient les saisir et dit, je dois à tout prix m'approcher de lui. Alors je vais prier pour vous et pour moi ce matin. Seigneur, ta parole est tellement riche. Ta parole, Seigneur, est encore tout à fait d'actualité. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons devant nous une dame avec une situation dont l'homme ne pouvait amener solution. Aujourd'hui, Seigneur, on a cette histoire d'une femme qui va s'approcher de toi avec la conviction que si elle peut simplement toucher les franges de ta robe, que sa vie en serait totalement restaurée et transformée. Mais Seigneur, nous savons qu'il y a des héros ou un héros, ne serait-ce qu'un seul héros obscur dans cette histoire. Cette personne qui lui a parlé de toi. Cette personne qui a fait qu'elle a entendu parler de toi, mais entendu parler d'une telle façon qu'elle avait l'assurance que ce qu'on lui avait dit était vrai, qu'il lui avait parlé d'une telle façon fraîche et unique qu'elle savait qu'elle ne pouvait plus rester dans l'isolement, mais qu'elle devait s'approcher du Maître. Je prie, Seigneur, qu'alors que je parle de toi ce matin, ça provoque la même réaction chez certaines personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Seigneur, qu'alors que je partage qui tu es et que je partage ta parole, qu'il se trouve, Seigneur, ce matin, des gens qui sont saisis de cette conviction que tu existes et que ce que dit ta parole est la vérité. Et qu'ils décident effectivement d'abandonner leur vie passée pour te toucher, pour toucher le bord de ton vêtement et en être transformé à toujours. Seigneur, le poids de ce témoignage a amené restauration et guérison dans la vie de cette femme. Ce poids, Seigneur, de ce témoignage a amené la conviction dans la vie de cette femme. Ce témoignage, Seigneur, a banni tous les doutes et toutes les craintes et toutes les peurs. Alors je prie, Seigneur, que lorsque ma sœur ouvrira sa bouche aujourd'hui pour parler de toi, que ce témoignage soit accompagné d'une même puissance qui ne peut venir que de ton esprit, qui convainc de ce qui est bien, de ce qui est mal, et qui amène le pécheur à se détourner de son péché. Je prie, Seigneur, que lorsque mon frère ouvrira la bouche pour parler de toi, dans ses paroles, Seigneur, il y a une telle conviction de la réalité, de la véracité de ta parole, que ceux qui vont l'entendre, Seigneur, soient amenés eux aussi à être convaincus de qui tu es. Je prie, Seigneur, que lorsque ton Église se lève dans cette période de quarantaine et de confinement, et qu'elle prend sa place, Seigneur, en dépit des circonstances difficiles, afin de s'approcher même de ceux qui sont en confinement pour leur parler de Jésus. Je prie, Seigneur, que ton Église ait une telle puissance dans ses propos, une telle réalité, un tel réalisme dans ses propos et dans le témoignage qu'elle partage, que des hommes et des femmes viennent à croire, viennent à être convaincus qu'effectivement, tu es le Seigneur, le Sauveur, le seul, l'unique chemin qui mène au salut. Et celui qui a la puissance, la toute puissance, pour changer les vies encore aujourd'hui. Alors je bénis ma sœur et je bénis mon frère ce matin, qu'ils expérimentent effectivement la puissance, Seigneur, qui accompagne leur témoignage, que tu leur permettes de voir, d'entendre des vies qui sont transformées à cause, Seigneur, de la puissance de ton message. Seigneur, nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des canaux pour toi. Mais nous voulons, Seigneur, que ce qui déferlera à travers nous soit la toute-puissance de ton évangile. Ton évangile qui change et qui transforme et qui convainc et qui sauve encore aujourd'hui. Alors je bénis ma sœur, je bénis mon frère. Garde-nous, protège-nous, dirige-nous. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Et là où vous êtes tous, vous pouvez dire Amen. Alors, je vais juste retourner un peu en arrière pour saluer quelques personnes qui se sont jointes à nous. La sœur Maya, que Dieu vous bénisse. La sœur Rachel et celles qui sont connectées avec toi, sois bénies. Soyez bénis. Letty, sois bénie. Dieu la bénisse. Léo, que Dieu te bénisse. Annie, sois bénie. Alex, Mylène, ma cousine, sois bénie. Je ne l'ai jamais rencontrée, ma cousine. Donc, heureux de faire ta connaissance à travers Facebook. À bientôt, j'espère. Pasteur Gab, sois bénie. Gaël, bénie. Pasteur Yvon, Dieu te bénisse. Florie, sois bénie. Claude, on s'est salué. Diane, sois bénie. La sœur Nina, le frère Hugo, soyez bénis. La sœur Florie, soyez bénis. Samek, encore une fois, sois bénie. Yves Monde, sois bénie. Pierre, sois bénie. La hermana Teresa, Dieu la bendiga. Je crois que c'est à peu près tout le monde pour ce matin. La sœur Maggie, soyez bénie. Voilà. Donc, je crois que j'ai salué tout le monde. Si j'en ai raté, pardonnez-moi. J'aimerais juste revenir sur une petite chose concernant jeudi soir, la Sainte-Cène. Donc, on vous rappelle que de façon exceptionnelle, comme on ne peut pas se rencontrer, on prendra la communion tous ensemble à partir de 19h, heure de Montréal. On vous demande donc de disposer vos cœurs comme si on faisait la Sainte-Cène habituelle à l'Église. Donc, on doit se présenter avec un cœur qui a été purifié avec des griefs qui ont été abandonnés, qui ont été pardonnés. On ne peut pas s'approcher de la table du Seigneur avec des rancœurs et avec des animosités, mais on doit s'approcher du Seigneur avec un cœur qui a été nettoyé, purifié et un cœur rempli de grâce et d'amour. Concernant les préparatifs, on vous invite donc à vous procurer du pain que vous avez probablement à la maison et à vous procurer aussi du jus de raisin pour prendre la Sainte Cène. On me demandait un peu plus tôt aujourd'hui s'il était possible de le faire avec autre chose. Le pain et le jus de raisin ou le vin sont les instructions qu'on a reçues dans la parole de Dieu. Jésus va dire de faire ceci en souvenir de lui, en commémoration de l'acte qu'il a posé avec ses disciples et aussi en commémoration de sa mort sur la croix. Et les ingrédients qu'il a donnés étaient effectivement du pain et du vin. Donc je me verrais mal en tant que pasteur et en tant qu'enseignant de la parole de Dieu de vous suggérer de faire autre chose. Il y a le débat à savoir est-ce qu'on peut prendre du pain avec ou sans le vin. Je ne crois pas dans ce cas-ci qu'il y ait nécessairement une obstruction, une interdiction plutôt quant au pain. Donc le pain qui soit fait tout d'abord de blé, c'est pas du pain de riz, c'est pas du pain de pois chiche, du pain d'amande ou quoi que ce soit. Il y a un sens particulier dans le pain qui était cette semence de blé qui avait été séchée, qui était écrasée et qui était complètement brisée, qui ressemble au corps de Jésus qui va être brisé. Quand on parle du vin, on parle aussi d'un raisin qui a été broyé, écrasé, comme ça a été le cas pour Jésus avec son sang qui a versé. Donc moi, je ne peux que vous inviter, bon, c'est pour ça qu'on le fait quelques jours à l'avance, à prendre des mesures pour vous procurer du pain et du jus de raisin pour célébrer la Sainte Cène. Est-ce qu'on a le droit de le faire avec du vin? Certaines personnes ont posé la question parce qu'ils n'ont pas de jus de raisin à la maison, mais ils auraient du vin. Regardez, à l'Église, on le fait strictement avec du jus de raisin parce qu'on sait que le vin peut être un sujet de discorde, mais que tout le monde peut boire du jus de raisin. L'alcool étant un point litigieux dans le monde chrétien, donc nous, on préfère le faire avec du jus de raisin à la maison. Comme vous êtes à l'église plutôt, comme vous êtes à la maison, je vous laisse, je crois, libre à vous. Je crois personnellement que lorsque Jésus a partagé la coupe, il n'a pas partagé la coupe avec du jus de raisin, mais qu'il a effectivement partagé une coupe de vin avec ses disciples. Et quand je parle de coupe de vin, il y avait effectivement de l'alcool dedans. Ce n'était pas un jus de raisin, mais c'était effectivement du vin alcoolisé que Jésus a partagé avec ses disciples. Parce que le mot vin voulait dire ça. Quelque chose qui avait été vinifié, quelque chose qui avait pris du temps pour macérer et prendre un degré d'alcool. Donc les deux recommandations, munissez-vous de pain, quel que soit ce pain, mais qu'il soit fait avec du blé, et munissez-vous de jus de raisin ou de vin à votre élection. Mais je ne peux pas vous conseiller autre chose dans les circonstances. Ceci étant dit, je vous souhaite donc une très très bonne journée. Merci à tous d'avoir été présents et présentes ce matin. On a été nombreux. Je sais qu'on m'envoie beaucoup de commentaires pour me dire que ce temps est béni. Donc je suis content et je suis béni de le passer avec vous aussi. Donc on se retrouve demain matin, 8h30, pour notre prochaine bénédiction matinale, puis mercredi soir pour l'étude biblique. Et jeudi, on reprend le matin 8h30, le soir 19h pour la célébration de la Sainte Cène. Vendredi encore, deux rendez-vous, le matin pour la bénédiction matinale 8h30 et le soir pour la prière, tous ensemble à 19h aussi. Donc d'ici là, que Dieu vous bénisse, bonne journée à tous et pour ceux qui vont aller prendre un café, bon café à tous. À bientôt.